VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, la contestation a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile et de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir.
Au Mali, visite hier du Premier ministre Boubou Cissé dans le centre du pays après un nouveau massacre de civils.
Au Libéria, le président George Weah a invité hier ses opposants à participer à une table ronde sur l'économie.
L'Organisation mondiale de la santé a signalé hier le premier cas confirmé d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a 10 mois.
Ici aux États-Unis, le président républicain Donald Trump et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden donnent le ton dans l'Iowa, plus de 500 jours avant la présidentielle de 2020.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Soudan, la contestation a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après le début d'une répression meurtrière et de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une issue à la crise. De Khartoum, notre correspondante Patricia Huon.
3 jours après le lancement du mouvement de désobéissance civile, les meneurs de la contestation ont donc appelé les Soudanais à retourner au travail ce mercredi. Il faut dire qu'une grande partie de la population ici vit au jour le jour. Un jour sans travailler, c'est un jour sans revenu. Et cette grève générale ne pouvait donc pas être tenable très longtemps. Il y a aussi une pression internationale pour la reprise d'un dialogue. C'est d'ailleurs le représentant du Premier ministre éthiopien qui tente une médiation entre civils et militaires qui a été le premier à annoncer la nouvelle. Il a hier ajouté que les contestataires avaient accepté de reprendre prochainement les négociations. Ceux-ci semblaient cependant plus réservés sur ce point. Avant de retourner à la table des négociations, ils demandent que les conditions qu'ils ont posées soient remplies, notamment que le Conseil militaire reconnaisse sa responsabilité pour la répression qui a fait plus de 100 morts la semaine dernière. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
Pour sa part, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement hier la violence au Soudan a appelé les militaires au pouvoir et le mouvement de contestation à travailler ensemble pour trouver une issue à la crise. Dans un communiqué, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé la fin immédiate des violences contre les civils et souligné l'importance du respect des droits de l'homme. La semaine dernière, la Chine et la Russie n'avaient pas approuvé la publication d'un texte similaire.
Retour sur l'attaque contre le village Dogon de Soban dans le centre du Mali qui a fait 100 de morts selon un bilan officiel provisoire. Les autorités maliennes ont reconnu hier qu'il leur incombait de protéger la population et d'œuvrer à la réconciliation entre communautés de plus en plus antagonistes dans cette région. L'attaque fait suite au massacre le 23 mars à Ogossagou de quelques 160 peuls, attaque attribuée à des chasseurs Dogon. Une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu mardi sur les lieux où le Premier ministre s'est incliné devant la mémoire de ces innocentes victimes de la discorde et de la haine. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant Kassim Traoré.
Au Libéria, le président George Weah a invité hier ses opposants à participer à une table ronde sur l'économie, 4 jours après une manifestation contre sa gestion. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur leur principale doléance. Les précisions d'Irénée Herman Ungo.
Asseyons-nous et discutons de la manière d'aller de l'avant, a déclaré le président libérien au pouvoir depuis janvier 2018, rappelant au passage qu'il avait hérité d'une économie en lambeaux. George Weah n'a pas directement répondu au collectif des organisateurs de la manifestation du 7 juin. Il a plutôt lancé un appel, entre autres, aux dirigeants de partis, d'associations de la société civile et aux responsables religieux traditionnels, sollicitant leur participation à une table ronde en vue de réfléchir ensemble à une meilleure relance de l'économie nationale. Sans aborder les revendications du Conseil des Patriotes, George Weah a salué le déroulement pacifique et ordonné de la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Certains citoyens ont exercé leur droit constitutionnel de se réunir avec pour objectif de présenter leurs revendications à leur gouvernement, a-t-il relevé. Il s'est par ailleurs engagé à continuer à garantir leurs droits et libertés.
Un garçon de 5 ans traité en Ouganda pour Ebola constitue le premier cas de cette maladie dans ce pays depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a 10 mois. C'est ce qu'a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé. La ministre ougandaise de la Santé a précisé que l'enfant était parti de Kasese dans l'ouest de l'Ouganda avec sa famille pour assister à des funérailles en RDC et qu'il était tombé malade à son retour en Ouganda. Une équipe de spécialistes a été envoyée dans la ville de Kasese pour essayer de trouver d'autres cas probables de la maladie et de vacciner ceux qui auraient pu entrer en contact avec l'enfant malade, selon l'OMS.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Trump et l'ancien vice-président Joe Biden, qui mènent dans les sondages côté démocrate, se sont tous les deux rendus dans l'État d'Iowa plus de 500 jours avant la présidentielle de 2020. Ils ont échangé à cette occasion les propos les plus vifs que l'on ait entendus à ce jour de leur part. Selon M. Biden, Donald Trump représente une menace existentielle pour l'Amérique. Et M. Trump, qui lui-même aura bientôt 73 ans, a fait allusion à l'âge de M. Biden, 76 ans, pour mettre en doute les capacités mentales et physiques de ce dernier. Avant même de quitter Washington, le président républicain avait dit de l'ancien numéro 2 de Barack Obama qu'il était le plus faible mentalement des candidats en lice.
Le président Trump a brandi un bout de papier hier dans les jardins de la Maison-Blanche, disant que c'était son accord sur l'immigration avec le Mexique qui contient des clauses non révélées, même si Mexico dit n'avoir aucune idée de quoi M. Trump parle. Des détails avec Jean-Roger Bion.
En brandissant son bout de papier, M. Trump s'est refusé à en révéler le contenu, se contentant de dire « je vais laisser le Mexique le divulguer au bon moment ». Auparavant, dans un tweet, il avait écrit que la majeure partie de l'accord avec le Mexique n'a pas encore été révélée. Interrogé sur un article du New York Times minimisant la portée de l'accord, qui ne serait que des mesures convenues lors de négociations antérieures, le président Trump a dit ne pas savoir où le Times est allé chercher son histoire. À la question de savoir si le Mexique allait servir de pays tiers pour abriter des migrants demandant l'asile aux États-Unis, le président américain n'a pas voulu confirmer ni infirmer l'information. De son côté, le chef de la diplomatie mexicaine a brandi sa propre feuille de papier et mis l'accent sur des détails déjà annoncés, y compris le déploiement de 6000 militaires à la frontière avec le Guatemala pour stopper le flux de clandestins centra-américains traversant son pays pour se rendre aux États-Unis. L'accord, selon Mexico, prévoit un bilan après 45 jours.
Immigration toujours. En Italie, le gouvernement a adopté un décret-loi voulu par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, instaurant un nouveau tour de vis contre les migrants et les auteurs d'agressions contre des policiers. Le point avec Eric Manerakiza.
Matteo Salvini a fait de la lutte contre l'immigration le thème dominant de ses campagnes électorales. Selon M. Salvini, qui est également chef de la Ligue d'extrême droite, ce décret composé de 18 articles prévoit une amende de 10 000 à 50 000 euros contre le commandant, propriétaire et armateur des navires qui va entrer sans autorisation dans les eaux italiennes. M. Salvini, qui a fermé les ports italiens aux ONG qui aident les migrants en difficulté en mer, prévoit même la confiscation de navires. Le ministre de l'Intérieur renforce aussi les sanctions pour les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre. Le seul port de casque ou se rendre méconnaissable lors des manifestations sera puni de 2 à 3 ans de prison et d'une amende de 2 000 à 6 000 euros. L'utilisation de battes de baseball, bâtons ou feux d'artifice contre les forces de l'ordre peut entraîner jusqu'à 4 ans de prison. L'Italie a déjà adopté en septembre des mesures sévères contre l'immigration. Ce texte doit encore être adopté par le Parlement où l'extrême droite dispose d'une majorité confortable.
Les protestataires qui bloquent le centre de Hong Kong doivent se disperser et respecter la loi, a prévenu aujourd'hui un haut responsable du gouvernement dans la première réaction officielle aux dernières manifestations contre un projet controversé d'autoriser des extraditions vers la Chine. Matthew Cheung, adjoint de la chef du gouvernement Carrie Lam, a appelé dans un message vidéo les manifestants à débloquer les rues qu'ils paralysent près des bâtiments gouvernementaux et à se retirer. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour la première fois, la Tunisie décide d'utiliser des drones pour sécuriser les productions agricoles et surveiller des individus suspectés d'être à l'origine des incendies qui ravagent les champs. Le ministre tunisien de l'Agriculture, Samir Tayeb, a expliqué que les drones survoleront les champs de céréales dans les provinces concernées pour assurer la sécurité dans tous les périmètres afin de définir les causes des incendies que connaissent certaines régions. La semaine dernière, plusieurs hectares agricoles ont été ravagés dans le nord-ouest du pays à la suite des incendies. 157,56 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État camerounais a enregistré durant les quatre premiers mois de cette année au titre des transactions pétrolières et gazières effectuées par la Société nationale des hydrocarbures. Les recettes de cette société ont augmenté de 28,51% par rapport à la même période de l'an dernier. Le pipeline Tchad-Cameroun a généré 11,58 milliards de francs CFA au titre du droit de transit, soit une hausse de 38,19%. Mais la production du brut a connu une baisse de 1,5% avec 8,10 millions de barils de pétrole. La production gazière, elle, est en hausse avec 219,78%, soit 26,414 millions de pieds cubes. Terminons avec le groupe indien Bharti Airtel qui a accepté de verser 26 millions de dollars sur 5 ans et d'annuler sa dette pour résoudre un conflit sur la propriété de son unité Airtel Tanzanie. Bharti Airtel a également annulé la dette de 407 millions de dollars que lui devait Airtel Tanzanie dans le cadre du règlement.
Les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les Lions de l'Atlas retenus pour la CAN 2019 sont connus.
Peu de surprises dans la liste du sélectionneur Hervé Renard qui a retenu la plupart des joueurs ayant participé au Mondial 2018, hormis le milieu de terrain Hamin Harit, en difficulté à Schalke 04. Les 23 Lions de l'Atlas évoluent pour la plupart en Europe ou dans les championnats du Golfe. Et seul le gardien de but Ahmed Reda Tagnaouti est issu d'un club marocain, le Wydad Casablanca. L'ailier de l'Ajax, demi-finaliste de la Ligue des Champions, Hakim Ziyech, et le latéral du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, sont les têtes d'affiche de cette liste. Le Maroc, qui n'a plus gagné la plus prestigieuse des compétitions africaines depuis 1976, a été logé dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie.
La liste du pays hôte est aussi connue.
Oui, la star de Liverpool, Mohamed Salah, conduira à domicile l'équipe des 23 pharaons, dévoilée par le sélectionneur mexicain Javier Aguirre. Blessé lors de la finale de la Ligue des Champions l'an dernier avec son club Liverpool, Mohamed Salah n'avait pas été en mesure de jouer au meilleur de son potentiel lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les pharaons avaient alors rapidement été éliminés. Après la revanche de Liverpool cette année en finale de la Ligue des Champions contre Tottenham 2-0, dont un but de Mo Salah, les espoirs des pharaons reposent en grande partie sur la star des Reds. L'Égypte affrontera le Zimbabwe le 21 juin lors du match d'ouverture au Caire.
Lionel Messi, sportif le mieux payé en 2019.
La star argentine du FC Barcelone trône en tête du classement avec 127 millions de dollars. Selon le classement annuel du magazine américain Forbes, Messi a touché 92 millions de dollars en salaire et primes et 35 millions de dollars grâce à ses partenariats et contrats de sponsoring. La Pulga devance deux autres stars du football, le portugais Cristiano Ronaldo, 109 millions de dollars et le brésilien Neymar, 105 millions. L'argentin succède à Mayweather en tête du classement 2018. Une seule sportive, la joueuse de tennis américaine Serena Williams, apparaît dans ce classement à la 63e place avec 29,2 millions de dollars.
L'accusatrice est lâchée par un troisième avocat dans l'affaire Neymar.
« Je dois me retirer de la procédure », a déclaré l'avocat Danilo Garcia de Andrade, confirmant qu'il ne défendrait plus Najila Trindade Mendes de Souza, la brésilienne qui a déposé plainte le 31 mai pour viol contre le joueur du Paris Saint-Germain. Il s'insurge contre des déclarations de sa cliente supposant qu'il serait impliqué dans le vol présumé d'une tablette censée contenir, selon elle, la deuxième partie de la vidéo d'une rencontre entre elle et Neymar au lendemain du viol présumé à Paris. Ces extraits contiendraient, selon elle, des preuves irréfutables de la culpabilité du joueur. La jeune mannequin de 26 ans accuse Neymar de l'avoir forcé à avoir des rapports sexuels lors d'un séjour à Paris en mai, payé par le joueur. La star brésilienne a toujours nié ces allégations.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, les associations civiles continuent de réclamer que les militaires acceptent de partager le pouvoir. Mais la présence des hommes en armes dans la capitale Khartoum reste très importante, particulièrement celle des forces de soutien rapide, les RSF, des troupes paramilitaires aux ordres du général Mohamed Hamdan Dagolo, surnommé Emeddi, le numéro 2 de la junte et actuel homme fort du pouvoir. Ces milices sont accusées d'atrocités, notamment au Darfour, et effraient la population. Reportage à Khartoum de notre correspondante Patricia Hur.
Les meneurs de la contestation ont appelé les Soudanais à retourner au travail ce mercredi. Mais la reprise des négociations s'annonce difficile. Lundi, le ministère de la Santé a organisé une visite guidée pour la presse dans plusieurs hôpitaux. L'objectif, accuser les contestataires des dégâts causés.
C'est une clinique ophtalmique ici. Un des lieux qui a été complètement détruit par les révolutionnaires. Ils ont tout cassé. Regardez tout l'équipement.
Mais la campagne de communication tourne court quand des hommes des forces de soutien rapide, armés de bâtons, de fouets et d'armes automatiques, font irruption dans la cour. Les paramilitaires sont réputés pour leur brutalité et accusés de nombreuses atrocités. La présence des caméras les rend nerveux. Il est vite clair que, comme dans toute la ville, ce sont eux qui contrôlent les allées et venues. Dans ces conditions, le responsable de la clinique ne peut pas s'exprimer librement. Il ne fait aucun doute cependant que la version officielle ne le convainc pas.
Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient armés. Ils ont tiré sur le coffre pour le forcer et ils ont pris l'argent qui était dedans.
Les témoins des violences commises par les forces de soutien rapide sont nombreux. Ibrahim Ahmed a reçu une balle dans le bras lors de la dispersion sanglante du sit-in. Des broches et des vis maintiennent encore son os fracturé. Un plâtre est posé autour de son poignet. Emmené dans un hôpital de la ville, il a vu les RSF harceler le personnel médical et poursuivre les manifestants jusqu'à l'intérieur de l'établissement.
Ils ont commencé par faire tourner les moteurs de leur pick-up pour effrayer les gens. Puis, on a entendu des coups de feu. Le deuxième jour, des protestataires ont trouvé refuge dans l'hôpital et les RSF les ont pourchassés. Certains sont venus dans la salle où nous étions. Nous avons dû nous barricader.
Du sit-in où se sont rassemblés nuit et jour pendant près de deux mois des milliers de personnes, il ne reste aujourd'hui plus rien. Le mouvement de contestation civile compte toujours ses morts. Face à des militaires déterminés à garder le pouvoir, leur soif de changement risque de ne pas suffire à sauver l'élan démocratique soudanais. Patricia Huon, Khartoum, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Mali, le Premier ministre s'est rendu hier au village de Soban. Le docteur Boubou Cissé promet le désarmement des milices de gré ou de force. Une enquête a été ouverte par le procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Mais les Maliens pensent que le gouvernement et ses partenaires internationaux ont échoué dans la protection des personnes et de leurs biens. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
De janvier à juin 2019, il y a eu trois attaques au centre du pays. Toutes ces attaques ont été menées de la même façon, le même mode opératoire. Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar.
Cette troisième attaque dans le centre du Mali, pratiquement dans les mêmes conditions que l'attaque qui a été perpétrée dans la localité de Dogo-Sagou, est inexplicable. Inexplicable dans la mesure où, à la suite de l'attaque de Dogo-Sagou, les autorités maliennes et même les acteurs internationaux présents au Mali, notamment l'administration, avaient annoncé un renforcement de l'effet militaire dans cette localité. Donc on ne comprend jusqu'à présent pas comment quand des assaillants ont dû attaquer tout un village sans qu'il y ait une réaction qui aurait permis de contenir cette attaque.
Pour les politiciens non-Togo, le Mali et ses partenaires n'ont aucune vision en matière de protection des populations et de leurs biens.
Aujourd'hui, c'est qu'au centre du Mali, nous n'avons pas de dispositifs sécuritaires pour sécuriser la population malienne et leurs biens. Des morts sont enregistrés tous les jours, des attaques planifiées au niveau de l'État malien et non pas une politique. Surtout, faire en sorte en cas d'attaque. Il n'y a pas une politique pour sécuriser. Le Mali se trouve dans des situations très difficiles. À travers aussi nos partenaires qui doivent sécuriser la population malienne, les Nations Unies, et là-bas aussi, nous sentons réellement qu'il y a des problèmes très sérieux dans notre pays.
Lors de sa visite dans le village meurtri de Sobanda, le Premier ministre malien préconise le désarmement de toutes les milices. Docteur Boubou Cissé.
35 morts identifiés. Parmi ces morts-là, il y avait des enfants, 24. Une des premières mesures qui va être prise à partir de maintenant, c'est aller vers le désarmement des milices d'autodéfense. Nous allons chercher à le faire par le dialogue, mais que chacun se le tienne pour information. De gré ou de force, les uns et les autres seront désarmés pour que nous n'assistions plus à cette horreur à laquelle nous avons assisté ces dernières 24 heures.
Le désarmement des milices n'est pas une mince affaire. C'est ce que pense Boubacar Salif Traoré, expert en sécurité à Afrique Globe Conseil.
L'État peut affirmer ce qu'il veut. Le désarmement des milices ne peut pas se passer comme ça. Il y a beaucoup de milices qui échappent au contrôle de l'État. L'État n'est même pas au courant du nombre de milices qui est présente dans cette zone. Et ça pose un autre problème. Aujourd'hui, dans la plupart des zones, les gens s'organisent en groupes d'autodéfense et ça évolue peu à peu vers des milices grâce à l'acquisition assez facilement d'armes.
Boubacar Sidiki Samake, procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte antiterrorisme.
La force doit rester là. Nous avons déjà ouvert une enquête et nous allons identifier aussi rapidement des personnes, comme ce fut le cas à Ouagadougou. Et des interpellations auront lieu très très vite. Et nous pensons aussi qu'on pourrait mettre la lumière sur ces événements-là, qui encore constituent une atteinte à la dignité humaine.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur le cycle d'atrocités entre communautés antagonistes au Mali après une attaque meurtrière attribuée à une milice Peul dans un village Dogon. Pour le président malien, la survie du pays est en jeu. Comment expliquer de tels carnages? Les groupes djihadistes ont-ils exacerbé ce conflit dit communautaire? Le gouvernement de Bamako a-t-il un plan clair pour enrayer ces affrontements? L'appui des troupes étrangères n'est-il pas assez efficace? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
L'Algérie est toujours dans une impasse politique. Les manifestants campent sur leur position. Ils continuent de rejeter toute élection présidentielle organisée par le pouvoir en place. Celui-ci ne cesse d'appeler au dialogue, mais la classe politique et la société civile n'ont jusque-là pas répondu favorablement à cet appel. Reportage à Alger de Mehdi Alioui.
L'Algérie est toujours dans une impasse politique. Les manifestants campent sur leur position. Ils continuent de rejeter des élections présidentielles organisées par le pouvoir en place. Celui-ci ne cesse d'appeler au dialogue, l'unique solution à la crise de son envie. En vain, ni la classe politique ni la société civile ne répondent favorablement à cet appel. Les Algériens s'apprêtent à entamer leur 17e semaine de manifestation. Ils demandent encore et toujours le départ des symboles du pouvoir laissés par l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Vendredi, lors de la précédente marche hebdomadaire, ils ont rejeté l'appel au dialogue du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, diffusé la veille à la chaîne de télévision publique. Les partis politiques étaient rares à réagir, qualifiant ce discours de non-événement. La société civile, de son côté, a décidé de bouger. Des centaines de syndicats, associations et collectifs ont organisé la semaine passée une réunion pour aboutir à une feuille de route de sortie de la crise que vit l'Algérie. Mais la rencontre n'a pas abouti à un accord final. Le point de divergence entre les participants réside dans le modèle de transition à adopter. Lies Malabat, président du syndicat national des praticiens de la santé publique, nous en dit plus dans une déclaration à VOA Afrique.
Ce qui s'est passé la dernière fois dans la rencontre de samedi, c'est qu'on était, on est venu sur une minorité absolue, voilà, qui défend cette proposition d'aller vers une assemblée constituante, un débat national ouvert avec une conférence nationale avant d'aller à autre chose, commencer par une nouvelle constitution. Et pour reprendre le chemin des élections et peut-être commencer par des élections locales, des élections législatives et terminer par les présidentielles, nous avons tout simplement rappelé que la majorité n'est pas dans ce sens et bon, ça n'a pas fait plaisir à certains, mais c'est pas ça le problème. On est en train d'avancer, donc depuis la réunion avec la samedi, on s'est revu On est en train de discuter pour ramener la proposition dans le consensus vers la conférence de ce samedi.
Les étudiants, eux aussi, rejettent le dialogue. Ils l'ont fait savoir ce mardi en marchant dans plusieurs villes du pays. Pas de dialogue, bande de voleurs, scandait-il. Sami, 24 ans, est un étudiant dans une université à Alger. Il nous explique, dans une déclaration à VOA Afrique, pourquoi il a pris part à cette marche.
Nous marchons pour répondre à ces autorités qui tentent de ruser avec nous. Ils disent vouloir dialoguer, mais leur histoire prouve que leur dialogue a toujours été un échec. Nous leur disons que nos revendications sont un État civil et non militaire. Nous leur disons que ceci n'est pas un mouvement, mais une révolution. C'est plus que de simples revendications. Nous ne reconnaissons pas ce pouvoir.
On ne demande pas des revendications. C'est un truc qu'on a déjà installé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com, à tout de suite.
Près d'un an depuis que la justice sud-africaine a légalisé la consommation de cannabis, le business très lucratif de la marijuana est désormais légal. L'industrie est en plein essor. Au demeurant, ce marché connaît une forte croissance en Afrique, comme a pu le constater Asma Botmi-Clark à la Cannabis Expo de Durban, dans ce reportage pris ici par Michel Joseph.
Une bière infusée au cannabis, un canna cocktail ou encore un simple canna café, il y en a pour tous les goûts à l'expo du cannabis. Joshua Harmon, promoteur à Poison City Durban Lager.
On peut sentir le goût, mais l'odeur est peut-être plus reconnaissable que le goût. C'est une expérience différente.
Une première à Durban. Cette expo rassemble les acteurs économiques et aspirants entrepreneurs dans le marché promoteur du cannabis. Un phénomène accéléré par la légalisation de l'usage médical et récréatif de la marijuana en Afrique du Sud. Et à moins d'un an, cette législation a ouvert la porte à une myriade de possibilités. Céleus Howarth, directeur de la Cannabis Expo.
Il y a une vraie opportunité pour le continent de devenir le fournisseur mondial en demande de cannabis et en produits dérivés du cannabis. Cela vaut des milliards et les gens commencent à s'en rendre compte. C'est aussi pour cela qu'on voit de grandes entreprises pharmaceutiques de cannabis médical s'intéresser à l'Afrique en ce moment.
Les perspectives de faire du profit avec le cannabis sont si alléchantes qu'elles n'ont pas échappé aux agriculteurs. Garth Prince, avocat investigateur de la bataille pour la dépénalisation du cannabis en Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud est le pays qui a le plus de jours ensoleillés au monde. En Afrique du Sud, nous sommes capables de produire 3 récoltes consécutives de cannabis par année. Et nous avons des millions d'hectares de terre qui ne demandent qu'à être cultivés avec du cannabis. Cela nous permettrait de construire les logements dont nous avons besoin, de produire la nourriture dont nous avons besoin et de mener l'Afrique du Sud vers un futur prospère.
D'ici 2023, 9 pays africains pourraient légaliser la production et la consommation du cannabis, soit un marché de près de 7 milliards de dollars.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.